Alors bonjour, on va reprendre. Alors nous sommes rendus au sujet du couple et on va débuter avec Michel Dandeneau et ensuite ça sera Anne qui pourra parler. Donc voilà.
Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Michel Dandeneau. Plus fort? Bon. Je vous présente Michel Dandeneau, que j'ai commencé à connaître au travers de ses écrits, puisqu'il fait partie des auteurs du livre La psychothérapie du lien, genèse et continuité, sous la direction de Gilles Hellyn. Et je peux vous dire qu'il est psychologue clinicien. Il a été professeur à l'Université d'Ottawa, où il a dispensé des cours en thérapie de couple, en sexualité et en psychopathologie. Alors j'étais fort impressionnée quand, quand j'ai pris connaissance de son CV. Et puis j'ai découvert en Michel un homme simple, généreux, aventureux. Il est formé en PGRO, il travaille comme psychothérapeute à Ottawa et offre de la thérapie individuelle et de couple.
À toi. Merci Anne. Alors tout le monde peut m'entendre, c'est bien, est-ce que je dois crier? Ça va? Plus fort? Oui, mais il faudrait que je me penche comme ça. OK. C'est correct. Non, je pense que ça va aller comme ça, oui. On va essayer. Donc, bonjour tout le monde. Quand j'ai fait imprimer mon billet d'avion pour venir ici, on m'a demandé si c'était par affaire ou agrément. Je n'ai pas hésité une seconde. Agrément. C'est un plaisir d'être ici avec vous sur la rue Cannabis. Hier, j'ai eu le bonheur de fumer du bon cubain avec Gilles et Caroline et les deux François. On parle de cigares, n'est-ce pas? Quand j'étais jeune et que les cloches de l'église annonçaient un mariage, ma mère disait souvent « Ah, un autre merdage! » Alors, sans doute, un éditorial sur sa vie de couple qui a coloré mes enjeux développementaux et mon intérêt pour le couple. Et comme on le sait, la PGRO a été conçue pour traiter des enjeux développementaux qui se manifestent dans des reproductions d'impasses relationnelles, dans la relation thérapeutique, donc les champs 1 et 2, ainsi que dans les relations significatives de la personne qui nous les relations courantes pour la personne qui nous console, donc ce qu'on appelle, nous, le champ 3. Or, la relation du champ 3, où l'on risque le plus de retrouver ces reproductions d'impasse, est sans doute la relation amoureuse. D'ailleurs, selon certaines études, la plupart des demandes en psychothérapie sont liées à ce thème. Alors, le but global de ma présentation est de situer la thérapie de couple dans le contexte de la PGRO, en soulignant l'importance du lien amoureux dans la vie humaine, puis en se penchant sur des considérations pratiques au niveau de l'intervention thérapeutique dans le lien amoureux. Pour un développement un peu plus théorique, incluant une bibliographie, permettez-moi de vous référer au livre La psychothérapie du lien, dans lequel j'ai un chapitre. Alors, notre histoire commence ici. Le vagin est trop étroit pour accommoder le passage d'un cerveau et d'un corps suffisamment matures pour survivre de manière autonome. Problème. Comment faire pour assurer le parachèvement du développement intra-utérin? La solution proposé par la nature, l'attachement. Créer un lien d'attachement est un besoin inné, un instinct inscrit en nous de manière neurobiologique. Ce bébé-là, s'il ne crée pas de lien, ne survit pas. Et ce besoin nous suit tout au long de la vie. Du berceau au tombeau, comme nous l'a montré John Bowlby. La sexualité permet de nous reproduire en tant qu'espèce, mais quand on y pense comme il faut, notre survie et notre existence en tant qu'espèce humaine sont assurées par le lien affectif, sans quoi on ne survivrait pas suffisamment longtemps pour se reproduire. Au lieu de Homo sapiens, celui qui sait, notre espèce aurait pu s'appeler Homo vinculum, celui qui se lie ou qui crée des liens. À l'âge adulte, la relation amoureuse est un lien d'attachement semblable à celui entre la mère et son nourrisson. Dans les deux cas, le cerveau baigne à peu près dans la même soupe chimique, l'ocytocine, et le lien est fondamental à la survie et à l'adaptation. Mais attention, n'allons pas croire que l'homme du couple occupe toujours la position du bébé. Donc, la relation amoureuse est un lien d'attachement. La différence, c'est que adulte, quand on devient amoureux, on n'est pas vierge. On porte déjà en nous toute une histoire relationnelle. Nous sommes tous issus d'une rencontre de couple. Et ce couple nous a marqués dans le réel et a laissé des traces à l'intérieur de nous, dans notre vie fantasmatique, représentationnelle. Des traces qui sont habituellement sous forme de blessures émotionnelles ou de conflits internes liés à des besoins affectifs de base. Plus tard, dans nos relations amoureuses, on cherche, plus ou moins consciemment, à combler des besoins affectifs, guérir des blessures émotionnelles ou résoudre des conflits internes. D'ailleurs, on sait à quel point l'expérience amoureuse prend une place capitale dans la vie humaine. Nos plus grandes joies et nos plus grandes peines sont souvent liées à une relation amoureuse. Tomber en amour, comme on dit chez nous, comporte une promesse implicite, idéalisée, qui sera déçue. Cette promesse brisée amène souvent nos couples en thérapie avec une importante charge émotionnelle. D'où l'importance du cadre pour aider à contenir cette charge affective. Et concrètement, le cadre commence avec la disposition du bureau. Alors, voici mon bureau. En entrant, certains sont surpris de voir les chaises disposées face à face. Le face à face permet deux choses. D'abord, se voir face à face assure une plus grande communication affective. On sait que l'émotion est transmise par le visage, hein, particulièrement les yeux et la bouche. Deuxièmement, le face-à-face favorise la différenciation et l'individuation dans un conflit symbiotique, une collusion faite de reproduction croisée dont va nous parler Anne et d'identification projective. À la première rencontre, j'essaie de couvrir les questions suivantes. Comment avez-vous pris la décision de venir? Expérience antérieure en thérapie? Attente, espoir, but? Brève histoire du couple? Conflit typique? Après cette rencontre initiale, je réserve une à deux séances individuelles avec chacun des conjoints pour explorer leurs histoires développementales respectives, le champ 4, E et I, externe et interne, et pour favoriser aussi l'alliance thérapeutique avec chacun des conjoints. On sait à quel point l'alliance thérapeutique est un ingrédient critique dans la réussite de n'importe quelle thérapie. Et à ces rencontres, on couvre trois thèmes. Famille d'origine, relation antérieure et relation actuelle. Et ça donne à chacun l'espace pour s'exprimer librement sur ce qu'il vit dans sa relation, sans avoir à se préoccuper de la réaction du conjoint. Et parfois, ça facilite le dévoilement d'éléments sensibles et critiques, tels que la violence dans un couple, ou bien le secret d'une relation extra-conjugale. Ce qui nous amène à notre prochain point. Que faire si, dans une séance individuelle, on nous demande de garder un secret? Est-ce que le contenu des rencontres individuelles est confidentiel? Essentiellement, il y a à peu près deux écoles de pensée là-dessus. Il y en a une qui veut que tout ce qui se dit en séance individuelle peut être rapporté par le thérapeute en séance conjointe. Certaines approches systémiques vont même refuser de voir des conjoints individuellement. Elles ne traitent que le système relationnel. Pour ma part, je préfère voir les conjoints individuellement en début de démarche. D'abord, pour favoriser l'alliance thérapeutique, comme on l'a vu tantôt, mais aussi, je veux savoir s'il y a des plans secrets, comme celui qui entretient une relation extra-conjugale et qui amène sa conjointe pour qu'on s'en occupe pendant qu'il prépare sa sortie. Alors, j'assure la confidentialité jusqu'à un certain point. Si, à mon jugement, certains secrets risquent de mettre en péril leur démarche de thérapie et leurs objectifs, je vais leur en faire part dans la séance individuelle et ensemble, on pourra décider de la meilleure démarche à suivre. Tout au long de la thérapie, il est essentiel de créer un espace sécuritaire, une sorte de bulle protectrice pour accueillir les désirs secrets et les déceptions profondes. Comme le champ 3 devient live dans notre bureau, cette membrane est une condition essentielle pour le traiter. Ça prend un environnement protégé, un peu comme une salle d'opération dans un hôpital. Parce que la particularité, la sensibilité et la force de la thérapie de couple, c'est qu'on peut intervenir directement dans le champ 3, qui en fait devient un champ 1. Alors, comment créer cette membrane sécuritaire? Voici quelques éléments de réponse. D'abord, favoriser une bonne régulation affective pour faciliter le dialogue herméneutique. Ensuite, il faut distribuer la parole. C'est un peu différent de la thérapie individuelle où, essentiellement, on laisse la parole au client qui est devant nous. Avec un couple, le thérapeute se doit d'être plus directif. Et ça, ça implique non seulement de donner la parole, mais aussi de la couper de manière à la redistribuer pour que chacun puisse en avoir usage, par exemple, dès qu'il se sent menacé, à tort ou à raison. À la première séance, je dis au couple, ici, on va essayer d'ouvrir un espace permettant l'exploration de sentiments, de perceptions, de pensées, de tout ce qu'on peut imaginer, à tort ou à raison, sans juger, sans chercher de coupable ou de fautif, mais plutôt avec l'intention de comprendre, en cultivant une saine curiosité empathique. N'en parlez pas en dehors d'ici. Il m'arrive de conseiller à certains couples qui sont aux prises avec des escalades conflictuelles et destructrices de ne pas parler de la source du conflit, exemple infidélité, à l'extérieur de mon bureau, pour aider à contenir les affects dans un endroit sécuritaire et en permettre l'exploration et l'élaboration de sens. On pourrait schématiser la membrane thérapeutique comme une zone de holding, ligne pointillée, menée par le thérapeute et endossée par le couple. Le couple nous arrive souvent pris dans un conflit symbiotique, nourri par des identifications projectives mutuelles et des reproductions croisées. Et ici, cette symbiose est représentée par la ligne ovale solide, une sorte de fermeture sur soi. Ce conflit symbiotique est alimenté par l'histoire relationnelle de chacun, son champ 4, par son objet couple, son modèle de couple qu'on va retrouver surtout dans la MRC, avec ses représentations positives et négatives de soi et de l'autre, et coloré par les émergences du ça et modulé à la frontière contact par le je. Ce que la thérapie vise, c'est la création d'une membrane différenciée et semi-perméable entre le couple et son entourage, d'une part, et d'autre part, entre les conjoints à l'intérieur de la dyade. Une des tâches développementales du couple, c'est la différenciation et l'individuation. Et ça, ça va passer par la reconnaissance de l'autre en tant qu'autre, différent de soi, et par le rapatriement de ce que j'ai projeté et qui m'appartient au fond dans mon self. Par exemple, l'accueil de mes émergences, fonction ça, la reconnaissance de l'impact de mon couple sur mon couple, des représentations de soi et de l'autre, et des attentes qui sont générées par mon objet couple, mon modèle, la MRC essentiellement, et le changement de comment je module le contact dans mon couple, la fonction « je ». Alors, protégé par la membrane thérapeutique, les conjoints font ce travail psychique de reconnaissance et de différenciation pour sortir éventuellement de leurs impasses et, on l'espère, construire un nouveau lien. Alors, pour ce faire, quelles seraient les composantes de la thérapie du lien amoureux? D'abord, reconnaître la reproduction de l'impasse relationnelle. Le couple arrive en crise, pris dans une impasse qui tourne en rond. On s'attaque, on se défend, on se blesse, on se met en nœud et on ne sait plus qu'est-ce qui appartient à qui. Donc, pour défaire ce nœud, il faut d'abord reconnaître l'impasse, puis élaborer cette reconnaissance en repérant les besoins affectifs sous-jacents à l'impasse, besoin d'amour, d'estime et de plaisir. Tout ça à l'aide d'un dialogue herméneutique avec l'éclairage du champ 4. Et on verra tantôt comment tout ça permet de compléter le contact et de créer une nouvelle relation dans le champ 1. Pour faciliter cette reconnaissance chez les couples, je les invite à porter attention à leurs interactions pour dépister leur cycle d'impasse habituel. On en note généralement 3. Attaque-retrait. Attaque-attaque. Et retrait-retrait. Et dans certains couples, on passe d'un cycle à l'autre. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une atmosphère relationnelle conflictuelle. Quelque chose dans le lien, mais simultanément indispensable et intolérable. Parce qu'en formant un couple, plus ou moins consciemment, nous cherchons, ou évitons à tout prix, à mettre en place une expérience qui reproduirait le climat affectif de notre champ 4. Un peu dans l'espoir secret de combler une carence, guérir une blessure, compléter une situation inachevée. Mais la PGRO nous rappelle comment nous travaillons à reproduire inconsciemment, précisément, cela même que nous voulons éviter consciemment. Justine a vécu une expérience d'abandon. Consciemment, elle cherche un conjoint qui lui fera la promesse de ne jamais l'abandonner. Mais inconsciemment, seul un conjoint avec des tendances à lui faire revivre une expérience d'abandon est digne d'intérêt et d'investissement affectif. Pourquoi? Peut-être pour le changer en un conjoint fidèle et loyal, ce qui coïnciderait avec le désir ou le besoin inconscient de transformer un objet interne. Elle pourrait choisir un conjoint qui a été blessé aux mêmes endroits qu'elle, mais qui s'est adapté d'une manière complémentaire. Par exemple, tous deux blessés dans le même enjeu d'attachement, L'un s'adapte avec un style préoccupé, qui demande constamment à être rassuré, tout en refoulant son besoin d'autonomie, et l'autre en évitant de ressentir son attachement, en refoulant son besoin d'intimité. Alors, je vous donne l'exemple d'un couple que je vois depuis, je pensais que c'était depuis 2 ans, mais j'ai vérifié dans mes notes hier, c'est depuis 4 ans, que je vais nommer Julie et David. Alors, Julie vient d'une famille de 7 enfants, père alcoolique et violent qui la battait, mère en retrait et soumise, pas capable de la protéger. Elle a développé un style d'attachement préoccupé. Lorsqu'elle est en crise, elle affiche un comportement borderline sur le plan émotionnel. Elle recherche une intimité fusionnelle. Elle répète qu'elle n'est heureuse que lorsqu'il est heureux avec elle. David est l'enfant unique d'un père qui avait 20 ans de plus que sa mère. Il a perdu son père en bas âge, après quoi sa mère l'envoie comme pensionnaire dans des écoles privées. Il la décrit comme plutôt froide et distante. Il a un style évitant. Et il est peu en contact avec sa vie affective. Il n'est pas à l'aise avec l'intensité émotionnelle. Alors, plus elle le poursuit avec son besoin d'intimité fusionnelle intense, plus il la fuit. C'est un peu comme si elle disait « Je te poursuis parce que tu me fuis ». Il répond « Je te fuis parce que tu me poursuis ». Donc, elle l'envahit avec son style préoccupé, et lui la fait paniquer avec son style évitant. On pourrait dire qu'il existe une correspondance dynamique entre l'équilibre intra-individuel dans chacun des conjoints et l'équilibre inter-individuel entre les conjoints du couple, qu'on pourrait schématiser de la façon suivante. David, dans son style d'attachement évitant, refoule son besoin d'intimité et a besoin de Julie pour le porter à sa place. Comme c'est intolérable, il le refoule. Mais comme ça lui est indispensable, il le fait vivre dans sa conjointe, qui en devient la porte-parole exclusive au sein du couple, une dynamique d'identification projective qu'elle accepte, entre guillemets, du fait de sa propre histoire relationnelle et de ses propres motivations. Julie, avec son style préoccupé, refoule son besoin d'intimité qu'elle projette dans son conjoint qui le porte à sa place et en devient le représentant exclusif dans la vie du couple. Alors, vous pouvez voir comment chacun a besoin de l'autre pour lui faire porter ce qu'il a d'intolérable et d'indispensable en lui. Elle le garde parce qu'il est devenu le dépositaire de son besoin d'autonomie, qu'elle a refoulé en elle et projeté en lui. Et lui la garde parce qu'elle est devenue la dépositaire de son besoin d'intimité, qu'il a refoulé en lui et projeté en elle. Ça crée un conflit polarisé dans leur vie de couple. Et le travail thérapeutique va consister à les aider, chacun, à devenir plus complet en rapatriant ce qu'ils ont refoulé et projeté et à se différencier. Ils pourront alors se remettre en mouvement, plus fluide, équilibré, ce qui pourrait ressembler à ceci. Un équilibre intra-individuel et inter-individuel, avec des frontières semi-perméables de part et d'autre. Ce qu'on pourrait aussi qualifier de attachement sécure ou interdépendance, dépendance saine, dépendance mature à la Fairburn. En d'autres mots, je peux dépendre de l'autre et l'autre peut dépendre de moi. Et nous y arriverons en repérant les besoins fondamentaux reliés aux grands chantiers développementaux. Besoin d'attachement sécure. Besoin d'estime et besoin érotique. des besoins affectifs de base à partir desquels nous allons créer une nouvelle relation dans le champ, les champs 1 et 2. En plus de la relation entre chacun des conjoints et le thérapeute, les champs 1 et 2 englobent aussi la relation entre les conjoints, telle que vécue dans le cadre de la thérapie. Alors, le thérapeute invitera les conjoints à interagir dans l'ici et maintenant en les aidant à cerner et exprimer leurs besoins affectifs et faciliter les réponses empathiques de part et d'autre. C'est en vivant l'expérience émotionnelle activée, live, dans le champ 1, que le lien pourra se transformer en créant de nouveaux circuits neuronaux. Une technique que j'aime beaucoup utiliser pour aider à faire ça consiste à demander au couple de décrire un incident conflictuel en détail, de manière à le reconstituer dans la séance. Un peu comme un film qu'on arrête pour l'analyser image par image, en s'arrêtant au vécu de chacun, son ressenti, sa perception, son besoin, son intention, ce qui favorise la mentalisation ou l'affectivité mentalisante. J'ai bien aimé ça tantôt. Le thérapeute aussi peut s'inclure dans le champ 1, par exemple, pour faire un travail de reconnaissance et de dialogue herméneutique avec un des conjoints. Le faire en présence de la conjointe, par exemple, permet à celle-ci d'entrer dans le monde interne de son conjoint et de lui ouvrir son empathie. On pourra ensuite inviter le couple à interagir différemment dans la séance. Je vous donne un exemple d'un couple que j'ai vu pendant 2 ans et avec qui j'ai terminé le travail il y a 2 semaines et demie environ. On va les appeler Charles et Nathalie. Charles a recours au contrôle et à la violence verbale pour faire peur et assujettir sa conjointe Nathalie. Alors, à l'aide d'un travail dans le champ 1, où j'explore avec lui les émergences et l'effet d'intimidation qu'il pourrait produire en moi, tout en sachant qu'il s'agit peut-être aussi de sa peur à lui, ensemble, on élabore quelque chose qui me permet de dire, « En fait, quand tu fais ça, quand tu lui fais ça, ce n'est pas par pure méchanceté, mais une tentative de sécuriser ton lien amoureux. Tu as appris chez toi et dans la rue à utiliser la force et la peur pour te faire respecter et te sentir en sécurité. Mais ça ne marche pas avec Nathalie. Ça finit par faire l'effet contraire. Elle se protège, résiste de plus en plus et se retire, te laissant avec ce terrible sentiment d'abandon que tu as si bien connu avec ta mère dépressive, hospitalisée à répétition. En entrant ainsi en contact avec ses sentiments, ses besoins affectifs, sa vulnérabilité, Charles commence à se percevoir différemment. Sa représentation de soi dans sa MRC commence à changer. Il n'est plus seulement le méchant qui fait peur. Son besoin d'un lien sécure est valide et bon. Il commence à reconnaître l'expérience d'abandon de son champ 4 qu'il reproduit dans son couple. Une fois qu'il est en contact avec son besoin affectif, sa vulnérabilité, et que je me suis assuré de la présence empathique de sa conjointe, je lui demande, « Peux-tu regarder Nathalie et lui dire dans tes mots combien ton cœur saigne, combien tu as peur de la perdre, qu'elle te laisse seule et que ton monde s'écroule? » Et quand il commence à faire ça, j'aperçois Nathalie qui le regarde attentivement. Son visage s'adoucit. Dans la MRC de Charles, elle n'est plus la méchante qui l'abandonne. Non, c'est parce qu'elle a peur qu'elle se retire. Mais devant l'expression authentique d'un besoin affectif de base, elle répond avec empathie. Et j'aperçois une larme couler sur la joue de Nathalie. ça me touche parce que j'aime ces, je les aime, ces couples-là. Alors, la MRC de Charles se complète et change. Les valences ne sont plus clivées de manière rigide. Les frontières s'assouplissent. L'autre n'est pas tout bon ou tout mauvais, mais plutôt tantôt gratifiant, tantôt frustrant, sans pour autant menacer le lien. Avec un tel changement dans la MRC, le contact sera modulé par le jeu de manière plus ouverte et fluide, plus adaptative. Alors, dans cette séance, particulièrement touchante, spontanément, Charles tend la main, Nathalie se lève et les deux s'étreignent. Un moment émouvant, activé, live, dans le champ 1. Une nouvelle expérience émotionnelle qui crée de nouvelles connexions neuronales. Comme le dit la loi de Hebb, les neurones qui s'allument ensemble se lient ensemble. Et quand le couple vit une telle expérience émotionnelle réparatrice, par la suite, je fais appel au champ 2 à plusieurs reprises pour la consolider, en rappelant cette expérience chaque fois que c'est approprié de le faire, en remettant en scène les images et les paroles pour réactiver les ressentis, en baissant le ton de voix, en ralentissant le débit. Phrase courte, image saisissante. Pour réactiver l'expérience, pour qu'elle prenne racine. Et finalement, ce n'est pas qu'un couple qui change, mais un père, une mère, une patronne, un collègue. C'est un changement qui rayonne ailleurs dans le champ 3, qui sait peut-être même un peu dans la communauté. Alors, pour conclure, on peut affirmer que la psychothérapie du lien amoureux vise quoi? Elle vise à créer un lien affectif sécure et souple, non polarisé dans des positions extrêmes et rigides, dans lequel chacun peut évoluer librement, dans les trois chantiers développementaux, d'amour, d'estime, de plaisir, tout en devenant complet et différencié. Et pour réaliser ce noble projet, on a souligné l'importance capitale du lien dans l'expérience humaine. On a vu comment mettre en place un cadre et une membrane sécuritaire et thérapeutique pour repérer et reconnaître les reproductions d'impasses relationnelles qui s'expriment sous forme de boucles interactionnelles. Et on a vu un peu comment on peut réparer le lien en créant de nouvelles expériences émotionnelles dans le champ 1, à partir des besoins affectifs de base sous-jacents aux impasses. Attachement, estime de soi et eros et ethos. Et voilà un condensé de thérapie de couple décliné en PGRO. Merci. Maintenant, pendant qu'on fait un petit changement technique, je vais vous présenter Anne. Alors, je ne connaissais pas Anne et je l'ai rencontrée la première fois il y a 2 soirs. J'ai eu le plaisir de manger des bonnes crêpes avec elle et son conjoint Jean-François Gravouille, que vous connaissez. Alors, il me fait plaisir de vous la présenter en vous disant qu'elle est gestalt-thérapeute en pratique libérale ici à Paris, où elle offre de la thérapie individuelle, de couple et de groupe, ainsi que de la formation auprès des bénévoles de l'Association de soins palliatifs des conseillers conjugaux et familiaux. J'ai l'impression que c'est une femme occupée. Elle a été formée à la gestalt-thérapie et à la relaxothérapie à Paris. Elle est diplômée du 3e cycle en PGRO au Québec et elle vit à la campagne avec Jean-François Gravouille. présente.
Merci, Michel, ça détend un peu. Bon. Alors, voici mon sujet, le traitement des reproductions croisées en thérapie de couple. Ça va être un focus sur, justement, le concept de reproduction croisée. Alors, en introduction, je dirais que les couples qui viennent consulter sont en difficulté parce qu'ils se sont bien souvent et inconsciemment attirés et engagés pour rejouer ensemble leurs enjeux développementaux inachevés. On peut dire que c'est pour ça que ces deux-là se sont rencontrés et restent ensemble. Pour rejouer chacun leur partition inachevée dans l'espoir de réparer avec ce partenaire-ci ce qui n'a pas pu l'être avec ce parent-là. Dans l'espoir que grâce à lui, grâce à elle, enfin quelque chose va changer. Donc notre travail en tant que thérapeute de couple, est-ce qu'il y a beaucoup de thérapeutes de couple dans la salle? Vous pouvez montrer. Ah ouais. Ok. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent le devenir? Okay. Alors, tout ce que je vous dis, ça va être envoyé. Je vais vous l'envoyer. Okay. Donc notre travail en thérapie de couple sera de voir, enfin selon moi, voir et comprendre la reproduction croisée qui s'exprime entre les deux partenaires pour la transformer. Alors tout au long de mon exposé, nous allons cheminer avec un couple. Qui sont Paul et Valérie. Alors justement, dans la rencontre, Valérie, elle croit avoir choisi, alors ça c'est le besoin dont nous parlait Michel tout à l'heure, elle croit avoir choisi un homme qui va la voir, la protéger, et lui permettre enfin de s'épanouir dans sa vie personnelle, amoureuse et sexuelle. Tout un programme. Paul, lui, il croit avoir choisi une femme qu'il va pouvoir secourir et rendre heureuse. Ainsi, va enfin pouvoir être reconnu comme un homme bon et puissant. Voici leur histoire développementale, très, très, très rapidement. Valérie est enfant unique. Alors, malheureusement, elle est violée par le compagnon de sa nourrice. Depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, elle n'a jamais été protégée par ses parents qui étaient psychiquement absents, sans doute très centrés sur eux-mêmes et sur leur relation de couple. Paul est enfant unique également. Ses parents se querellent et son père quitte le domicile conjugal. Il se sépare quand il avait 6 ans. Sa mère, il reste seul avec sa mère, une mère souffrante, contrôlante, une mère qui cherche à contrôler ses affects. Et lui, comme petit garçon, comme petit gars, il a cherché à réparer, à sauver sa mère, mais il a été envahi par les affects de sa mère. Et son père est resté absent tout au long de son développement. Alors, je vais tâcher de vous définir maintenant ce que moi j'ai appelé la reproduction croisée. Alors, ce qu'on observe, c'est que ça concerne certaines impasses de contact. Pas toutes, heureusement. Et c'est sur ces impasses de contact spécifiques qui se croisent que nous allons travailler. Donc, j'ai pu observer que certaines impasses de contact de l'un activent certaines impasses de contact de l'autre. Et ces impasses donc spécifiques se croisent en s'amplifiant. Et c'est ça que j'appelle la reproduction croisée. Autrement dit, les PGRistes disent cela, autrement dit, les micro-champs introjectés de l'un entre en résonance avec les microchamps introjectés de l'autre et les réactive. Donc, ainsi, chacun rejoue avec la participation active, bien qu'involontaire, de l'autre, ces vieux scénarios. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, comment, justement, on la voit, cette reproduction croisée? Eh bien, on la voit essentiellement par l'émergence de dysrégulation émotionnelle. Ce sont les affects de l'un amplifiés et aggravés par l'autre qui sont les indicateurs significatifs des reproductions croisées. Ce qu'on peut voir, c'est que lorsque l'un des deux est en difficulté, pris dans ses zones de vulnérabilité, l'autre ne peut pas être soutenant. Il serait bon à ce moment-là que l'autre, par exemple, soit un bon parent. Mais comme il est stimulé lui-même dans ses propres vulnérabilités, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas être un bon parent soutenant. Bien au contraire, ça amplifie les difficultés de l'un et de l'autre. Autrement dit, les affects dysrégulés de l'un ne peuvent pas être co-régulés par l'autre. Bien au contraire, cet autre dysrégulé aussi, et l'on a une amplification croisée des troubles de chacun. Alors, je vais essayer de vous l'illustrer. Où est-ce qu'il est, le pointeur ? La télécommande. Voilà. Merci. Un bon compagnon. Voilà, ça va être plus. Oh.
Ça, est-ce que ça fonctionne ? Tiens. Je veux savoir si ça fonctionne pas.
Ça fonctionne
ça,
pas.
C'est oh. C'est correct, on va aller en chercher un autre.
Non, faut pas exagérer. Oh, t'es adorable. Adorable.
Est-ce que ça marche?
Entre nous, ça marche bien. Voilà. Au départ, dans le comportement de base de Valérie, et on peut le comprendre compte tenu de ce qui lui est arrivé, elle est figée. On pourrait dire qu'elle est prise dans fir. Elle est en attente que l'autre lui apporte réparation. Et Paul, lui, il a plutôt appris à se couper des affects de l'autre pour se protéger. Et il a appris à se débrouiller tout seul. Et il imagine que l'autre doit pouvoir en faire autant. Voilà. Donc, vous voyez, ils ne sont pas très bien équipés, ces deux-là, au départ. Ensuite, ce que je constate souvent en séance, c'est que Valérie est dans la plainte. Elle se plaint, elle reproche à Paul de ne pas venir au contact. Et effectivement, Paul, qui a peur d'être envahi, qui a peur d'être contaminé, il défléchit le contact. Ou alors, parce que c'est un bon gars, il est très touchant, ou alors il vient au contact, mais de façon inadéquate. C'est-à-dire, il essaye de lui apporter des solutions, en lui disant, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça ne marche pas, ça se désaccorde. Et Valérie, à cet endroit-là, se sent pas rejointe, se sent incomprise, elle se sent jugée. Ben oui, on lui dit, tu devrais faire comme ci, tu devrais comme ça, ça irait, alors effectivement. Elle entend, je ne suis pas bonne. Elle se sent jugée et ses reproches à elle ont tendance à s'intensifier. Ça se désaccorde et ça s'amplifie. Alors Paul, qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? Il se sent rejeté, il se sent impuissant, dévalorisé. Ça le rend impatient, pas vraiment en colère, mais il y a quand même de plus en plus de colère. Donc ça s'amplifie. Du fait que Valérie a peur de sa colère. Elle se sent encore plus incomprise, elle a tendance à se renfermer dans une forme de protection, mais en même temps dans une forme de silence réprobateur. Et vous voyez bien, on retourne quelque part à la case départ. Avec le temps, malheureusement, ça forme une impasse vraiment chronicisée que moi j'ai repérée sous la forme de somatisation chez Valérie. Comme s'il n'y avait plus que son corps qui pouvait parler de son affect, de son mal-être. Et Paul, comme il se sent impuissant, d'autant plus impuissant qu'il est seul, puisque Valérie, elle tombe malade, donc il se retrouve tout seul à assumer les tâches du quotidien, et lui aussi, il est en risque de somatiser. Voilà. Ça va ? Alors, voilà. Alors, à partir de maintenant, je vais plus vous parler de ma méthode thérapeutique. En commençant par la posture du thérapeute. Alors, Michel vous en a parlé tout à l'heure. Tout comme Michel, je porte mon attention sur l'entité couple qui, selon moi, forme un système original qui contient et exprime cette reproduction croisée. C'est ce système qui a besoin de se transformer, ce système donc qui est coproduit par les deux partenaires. Même si, parce qu'on voit souvent ça, même si apparemment il y en a un seul des deux qui active la crise. J'attire votre attention sur le fait que ce qu'on appelle la crise dans un couple, justement, c'est l'ensemble de ses comportements, ses symptômes et de ses représentations. Et c'est un système produit par les deux personnes réunies, et c'est ce système qui a besoin d'être travaillé, transformé. Alors, avec la vignette suivante, je vais vous montrer... je vais illustrer un petit peu ce que pourrait être l'impasse du couple entre Paul et Valérie. Donc on en était à Valérie tombe gravement malade. Et là, vraiment, ça mettait tout le monde dans l'impuissance. Tant moi que les médecins qui ne comprenaient pas très bien ce qu'elle avait, qui ne pouvaient pas poser un diagnostic, que Paul, qui vraiment était impuissant à l'aider et qui l'aidait d'une façon qui n'aidait pas vraiment le couple. Donc je leur ai demandé de représenter chacun cette impasse, pour que peut-être on la regarde d'un peu plus près. C'est-à-dire de regarder, je leur ai demandé de regarder la maladie de Valérie comme une impasse entre eux. Valérie, elle, qui était à ce moment-là dans une énergie très basse, a juste posé quelques mots sur une feuille et ces mots étaient « pas de rencontre », « sorte d'évitement entre nous », « accepté naturellement », « on fait avec », « on vivote », « je suis frustrée » et « nous avons peur du contact ». Voilà. Ceci, c'est l'illustration de Paul. Alors, voyez ici, pointeur... Voilà. Ici, ça représente la cellule malade, avec ici l'infection, l'ensemble des thérapeutes, médecins, H comme hôpital, impuissants, qui se questionnent. Ici, c'est le pus, c'est la maladie qui s'écoule. Et ici, les deux, on pourrait dire les deux balises. Ici, c'est Paul. C'était elle, il me semble. Voilà, oui. C'était elle, ici, en avant. Voilà, Paul avait représenté ici Valérie en avant. Et lui, ici. Et là, au milieu, c'est leur petite fille, qui avait 2-3 ans à l'époque. Voilà. Et ils vont, tant bien que mal, sur le chemin. Ils essayent d'avancer en supportant à deux la maladie. Alors, le travail que je leur ai demandé ensuite, c'est à partir de ce dessin, de voir comment ils pourraient transformer ce dessin pour sortir de l'impasse. Et Paul, il disait, moi, je ne vois pas, à part continuer à avancer en supportant, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Quoi. Ou ce qui serait bien, c'est que les médecins, parce qu'il est dans un système de pensée très rationnel, ce qui serait bien, c'est que les médecins, là, ils comprennent ce qui se passe et puis qu'ils soignent l'infection. Et ce qui est intéressant, c'est que Valérie, qui jusqu'à maintenant n'était pas très animée, s'anime et dit, mais moi, je crois savoir ce qu'on peut faire. C'est que là, toi, Paul, tu te rapproches de moi. Tu viens tout contre moi. Et ainsi, la maladie, elle peut s'écouler. Elle peut partir. Voilà. C'est très intéressant. On voit bien son besoin émerger. Le problème, c'est que Paul, il n'était pas du tout d'accord. Et c'est là où on voit qu'ils n'étaient pas prêts à transformer. Paul, il dit, ben non, pas du tout, parce qu'on ne peut plus avancer. Et puis notre petite, elle va être écrasée. Et je voyais bien. En plus, il avait du mal à le dire, quoi. Il était plutôt muet à ce moment-là. Et je voyais bien qu'elle était, du coup, Valérie, elle se renfrogne, quoi. Donc c'était pas, on n'en était pas à la réparation. On ne peut pas à ce moment-là. Il faut continuer le travail d'exploration de l'impasse. Alors, comment justement on peut la traiter? D'abord, moi, ce que je fais, c'est que je la nomme, la reproduction, pour rendre les deux partenaires du couple actifs, responsables. Je la nomme et je leur explique. Je leur explique ce que c'est. Je leur explique qu'ils ont besoin de leur partenaire pour rejouer leurs impasses développementales. Autrement dit, parce que les impasses développementales, ça ne va pas tellement leur parler. Autrement dit, leurs blessures enkystées, non cicatrisées de leur passé. Je leur montre et je leur explique le mécanisme de leur processus reproductif, que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple. Pour les rendre plus conscients, pour les rendre plus acteurs de la transformation. En général, ça a un effet plutôt apaisant, plutôt déculpabilisant, parce que sinon, ça laisse porter toute la responsabilité sur l'autre partenaire, de voir que non, il n'y a pas que ce qui se passe dans le champ 3, il y a aussi un champ 4 qui est opérant, en arrière-plan. Deuxième point, je pense qu'il est préférable de travailler la reproduction dans l'ici et maintenant, à l'émergence. Et à ce propos, je vais passer à la vignette suivante, pour vous parler un petit peu plus spécifiquement du champ 1. Il me semble que j'ai trouvé trois niveaux dans le champ 1. J'essaie de le décortiquer. Le premier niveau, pour moi, c'est le thérapeute en relation avec chacun des deux partenaires. Et je peux interagir avec eux en les interpellant de la façon suivante. Qu'est-ce que vous ressentez en ma présence? Qu'est-ce que je représente pour vous? Quels ressentis, quelles représentations me viennent aussi, moi, à votre contact, avec chacun d'entre eux. Et puis, je reviens à ma posture de tout à l'heure, le thérapeute fait face à l'entité couple. Et j'interroge, quelle représentation vous avez de votre couple, et moi, quels ressentis, quelles représentations me viennent quand je vous regarde? Et puis, il y a ce que j'ai appelé l'ici et maintenant du couple. Ce sont les deux clients qui sont l'un en face de l'autre, qui interagissent l'un avec l'autre. Et là, j'interroge en leur demandant, mais qu'est-ce que vous éprouvez l'un pour l'autre, là, à cet instant? Et qu'est-ce que vous imaginez, moi, qui suis en train de vous regarder? Qu'est-ce que vous imaginez que je ressens? Voilà. Alors, on revient à la vignette précédente. Donc je vous disais qu'il est important de travailler l'émergence dans l'ici et maintenant et de faire un focus sur cette émergence pour exploiter ce qui émerge. Ça demande vraiment de faire des arrêts sur image. C'est vraiment important de stopper le coup, de dire « attendez là ». Parce que souvent ça va vite. Je veux dire « attendez là ». J'ai l'impression que il se passe quelque chose, on va s'arrêter, on va regarder de plus près. Ça, c'est vraiment important d'avoir une posture d'autorité et de freiner, d'arrêter. Alors, je travaille sur le processus. C'est vraiment c'est un véritable changement de paradigme pour la plupart des couples. Parce qu'ils sont habitués à être dans le récit, à rester sur l'événementiel, qui aboutit à savoir qui a tort, qui a raison, qui est le bon, qui est le méchant. C'est un petit peu comme si moi, je devais un petit peu leur dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire, quoi. Donc, il est important pour le thérapeute de ne pas se laisser prendre à cet endroit-là, de ne pas se laisser enfermer dans un rôle de parent, juge, arbitre. Et travailler sur le processus, c'est vraiment plus regarder au-delà du contenu, qu'est-ce qui se passe entre eux, qu'est-ce qui se dit au-delà des mots, qu'est-ce qu'il y a dans l'implicite, qu'est-ce qu'il y a dans le non-verbal, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et quand on y arrive, parce que c'est tout un apprentissage en fait, quand on y arrive, la parole, elle se met à circuler avec plus d'attention, plus de tranquillité, plus de fluidité. Alors ça demande, c'est le point suivant, ça demande à ralentir pour ressentir. Et j'utilise souvent la reformulation. Et cette méthode a vraiment de l'intérêt, il me semble, parce que ça permet d'accéder aux déformations qui sont liées au monde interne de chacun. Et aussi de favoriser l'assimilation, l'ancrage. Alors, autre dernier point, mettre du tiers. Moi, je leur donne à voir ce qui se passe entre eux. Je leur dis ce que j'éprouve pour l'un et l'autre et pour leur relation. C'est comme ça que je mets du tiers. C'est-à-dire, je les aide à se reculer, à un petit peu mieux regarder aux endroits où ils fonctionnent en aveugle dans leurs automatismes. Et je les invite à ce moment-là à s'arrêter et à imaginer comment ils pourraient faire autrement. Comment ils pourraient un petit peu se décoller l'un de l'autre et de leur mécanisme conservateur. Ce que je peux faire aussi, c'est, Michel tout à l'heure l'illustrait très bien, je peux interagir avec l'un sous le regard de l'autre et vice-versa. Là, c'est le premier niveau du champ dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je leur donne ainsi l'opportunité de regarder le mode de relation client-thérapeute. Je leur permets d'être dans une posture de recul ou une position méta pour leur permettre de regarder plus tranquillement l'autre qui interagit avec le thérapeute et de regarder plus tranquillement aussi ce qui peut se reproduire dans leur relation. Parce que la reproduction, elle peut aussi, elle doit d'ailleurs, se reproduire avec le thérapeute. Donc quand l'autre partenaire est en train de regarder quelque chose qui se dénoue, enfin quelque chose qui peut se mentaliser d'une reproduction entre client et thérapeute, c'est vraiment très intéressant pour celui qui est en recul et qui peut regarder. Ça permet de modéliser. Alors, on passe, voilà. Donc, autre aspect très important dans la façon de traiter la reproduction croisée, c'est de réguler. La régulation affective est vraiment au service du traitement de la reproduction croisée. On cherche à co-construire le sens de ce qui se produit entre eux, mais on ne peut pas commencer cette recherche si l'affect n'est pas suffisamment régulé. Et parce qu'il nous est impossible d'être dans l'émotion intense, et c'est souvent ce qui se produit à l'intérieur du couple, et dans la mentalisation. Alors moi, la mentalisation, je la définis, c'est très schématique par rapport à ce que nous ont dit tout à l'heure Claire et Alain, comme la représentation et l'expression de notre vécu interne. Alors tant que l'affect, tant le mien que ceux de mes clients n'est pas régulé, on ne peut pas passer à la reconnaissance de la reproduction croisée. En premier lieu, ça me demande à moi de me laisser imprégner, contaminer. Il faut que je goûte, moi, ce qui vient de l'un, de l'autre, merci, et des deux. Et il faut que moi, je me régule pour ensuite pouvoir réguler avec mes clients. Je vais aller un petit peu vite là, un petit peu plus vite. Alors, comment on peut traiter le champ 4 en thérapie de couple ? Alors, bon, évidemment, une investigation à champ 4 est nécessaire. On ne peut pas reconnaître la reproduction croisée si on ne fait pas cette exploration. Mais la difficulté, c'est de ne pas faire de la thérapie de l'un sous le regard de l'autre. Vous comprendrez bien. Ça irait pas. Comment on peut faire ? Alors, Michel, il nous a dit, lui, comment il faisait. C'est intéressant. C'est un point de vue. Moi, je fais différemment. Je demande à chacun des partenaires, quand la thérapie de couple est engagée, de me remettre un écrit, une autobiographie de leur histoire développementale et un petit récit de leur rencontre, de leur histoire de couple. Ça me permet, moi, tranquillement, de commencer à construire des hypothèses. Mais bon, c'est pas suffisant, évidemment. Alors après, ce que je propose, c'est une espèce de petit exercice entre eux, c'est-à-dire que je demande à Paul, je dis à Paul, « Paul, racontez-nous ce que vous savez de l'histoire de l'enfance de Valérie, et vice-versa. » C'est intéressant parce que je peux commencer à voir comment ces deux-là sont attachés l'un à l'autre. Je peux commencer à voir un petit peu des éléments de la reproduction. Alors, il y a une autre façon de traiter le problème, c'est de travailler à deux thérapeutes. C'est ce que je fais avec Jean-François. Nous travaillons de la façon suivante. Nous alternons les séances de couple, où on travaille à quatre, et les séances individuelles, où chaque thérapeute travaille avec son client. Et pendant ces séquences en individuel, on explore le champ 4. On peut aussi explorer justement la reproduction. Qu'est-ce qui se passe dans le champ 3 du couple. Voilà. C'est deux dispositifs différents. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Où est-ce que j'en suis ? Voilà. Alors, je vais essayer de vous illustrer les dilemmes de contact de Paul et Valérie. Là, maintenant, je vais essayer de rassembler et puis de finir par des illustrations et vignettes cliniques. Alors, à l'origine, Paul, comme il se retrouve seul avec une mère souffrante, pour être aimé et exister aux yeux de sa mère, ça c'est l'indispensable, il cherche à la sauver, mais il est contaminé par des parties maternelles répudiées, projetées à l'intérieur de lui, par une mère coupée de ses affects et dans le contrôle. Ça, c'est son intolérable. Et pour se protéger et pour exister, il doit se couper, lui, de ses affects. Donc son comportement est devenu fonctionnel, maîtrisé, et son mode de contact est évitant et rationnel. Valérie, elle, à l'origine, elle a besoin d'être vue, protégée, reconnue. C'est son indispensable par ses parents, malheureusement trop préoccupés d'eux-mêmes, psychiquement absents. Et elle a été abusée par le compagnon de sa nourrice de 5 à 10 ans, à l'insu de ses parents. Donc elle a été traumatisée, elle reste traumatisée d'ailleurs, et malheureusement ni protégée, ni vue, ni rejointe dans sa détresse par ses parents. C'est son intolérable. Aujourd'hui, elle reste traumatisée, elle est en attente d'une aide, tout en croyant que personne ne peut ni l'accueillir, ni la comprendre. Elle agit beaucoup ça, elle n'est pas facile à approcher, elle met un peu tout le monde dans l'impuissance. Voyons ce que ça donne aujourd'hui, comment s'exprime la reproduction croisée. Aujourd'hui, Paul est attiré par une femme qu'il va devoir sauver à nouveau. hein, comme avec maman. Mais comme il a peur d'être contaminé, c'est vraiment très très fort. Il fuit l'affect et sa façon de lui venir en aide est inadéquate. En conséquence, il ne peut pas la satisfaire et il est rejeté. Il se sent impuissant et inexistant pour l'autre à nouveau. Et il se retrouve seul à porter un fardeau trop lourd, car pour lui, Valérie est d'autant plus souffrante qu'il échoue à l'aider. Il est en risque de somatiser gravement. Il s'est fait d'ailleurs une perforation intestinale, ce qui n'est pas un petit truc. Valérie, elle trouve de la sécurité, malgré tout, et de l'attention avec Paul, mais le langage ne lui convient pas. Ses attentes sont énormes et ce qu'apporte Paul n'est ni suffisant ni adéquat. Et elle ne peut toujours pas aller vers lui et lui faire une demande explicite. Ça, c'est impossible. Elle ne peut pas aller vers. Elle continue à son insu à tout faire échouer. Elle fait goûter l'impuissance à Paul. Elle entretient la croyance que personne ne peut la rejoindre, ni la comprendre, ni la secourir. Pour terminer, alors c'est drôle parce que je vais faire un petit happy end, un petit peu comme Michel, on ne s'est pas concerté. C'est le même genre de représentation, c'est un couple enlacé. Je vais vous relater une des dernières séances que j'ai eues avec Paul et Valérie. Il y a un début quand même de réparation de cette impasse de reproduction. C'est une séquence où Valérie me raconte qu'elle prend conscience qu'il est nécessaire qu'elle aille au contact de Paul pour lui faire une demande, pour lui exprimer ses besoins, pour faire une demande. Donc vous voyez, il y a un début de mouvement. Mais elle me dit, mais je ne suis pas arrivée. Je suis restée prostrée dans mon canapé, paralysée, et pourtant Paul, il était dans la pièce, mais il m'apparaissait extrêmement lointain, et j'imaginais qu'il n'allait pas m'accueillir, était occupé, il n'allait pas m'accueillir. Alors Paul, il se fâche, il dit, mais c'est pas possible, quoi, si tu me juges incapable de t'accueillir, c'est pas possible. Et moi, je me dis, bon, voilà, l'impasse à nouveau, quoi. Et là, je leur propose une petite expérience. Donc, je dis, écoutez, là, on va le faire ensemble, ça. Donc, je dis à Valérie, là, tu vas t'installer, ça va être le canapé. Et puis, Paul, toi, tu vas t'occuper dans mon cabinet. Voilà. Et moi, je reste près de Valérie parce que j'ai bien compris qu'elle avait besoin d'aide. Donc, je reste à côté d'elle, en soutien. Bon, je lui fais un appui avec ma main dans le dos. Et puis je lui dis, allez, maintenant tu vas vers Paul, tu vas au contact. Bon, c'était pas facile, mais... Et puis ce qui se passe, c'est que Valérie, elle regarde en face d'elle, il y avait donc les deux fauteuils qui étaient restés vides, et sur un des fauteuils, j'ai un coussin avec, en forme de hibou, avec deux boutons qui représentent les yeux. Elle me dit, elle a un air extrêmement effrayé, elle me dit, là, il y a mon violeur, il me regarde. Incroyable. Voilà, vous voyez l'émergence Et moi, à cet endroit-là, je me suis vue réagir très vite, un peu comme un pompier, vraiment, comme un urgentiste. Je lui ai dit, tu regardes là, tu regardes Paul. Et moi, j'ai fait une espèce de rempart, Tu regardes Paul et là, maintenant, tu vas vers lui. Ça a coupé la terreur. Et elle avait toujours du mal à aller vers, mais... Ce qui est apparu, c'est là, c'était terminé. Et alors, elle se lève et puis elle me dit, je ne sais pas quoi dire. Je lui dis, mais il n'y a rien à dire, va. Et elle s'approche. Alors, malheureusement, c'est là où on voit bien l'impasse. Paul ne la regardait pas du tout. Il n'était pas du tout accueillant, les bras ouverts. Il s'occupait, continuait à s'occuper. Donc... Alors Valérie, elle s'approche, puis elle dit, mais tu me regardes pas. Alors il dit, mais regarde là, et il lui montre un tableau que j'ai dans mon cabinet, regarde là, il y avait un ange, une représentation d'ange, il te ressemble. Voilà, pourquoi pas, c'est un mode de contact. C'est pas celui de qu'attend Valérie, voilà. Fait ce qu'il peut, il est touchant. Et non, c'est vrai, non, je les aime beaucoup. Non, il fait ce qu'il peut, c'est vraiment touchant. Ouais. Et puis, Valérie, elle dit à Paul, mais tu ne me prends pas dans tes bras. Il met beaucoup de bonne volonté. Tu ne le prends pas dans tes bras. Et là, Paul, il la prend dans ses bras. Et là, je vous assure, ce que j'ai vu, c'était réellement bon. Hein. C'était vraiment ça. Et j'ai fait durer. Hein. J'ai fait durer, j'ai accompagné justement pour qu'il puisse intégrer cette posture. Hein. Et évidemment, il y a beaucoup de travail derrière hein, pour intégrer ce début de réparation. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci pour votre soutien. Il y a beaucoup d'amis dans la salle et je me suis sentie très soutenue. Merci.
Ben merci. On va vous laisser peut-être une ou deux minutes, pas beaucoup, pour ensuite passer à la période de questions, donc à discuter entre vous. Voilà.
Oui, 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 j'ai bien aimé ça. Tu voyais ça? C'est bien. Continue. J'ai pris soin de vous. Bravo, c'était vraiment passionnant. Vraiment passionnant. Merci beaucoup. Vraiment bien. Vraiment bien. Merci. C'est vraiment... Moi, j'ai aimé beaucoup ce que tu coupes pour le travail en toi aussi. C'est bien. Oui, 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 j'ai bien aimé ça. Oui, oui, oui. Là, tu vas en faire plus.
Ben, c'est tout, oui. Mais j'en ai déjà un peu plus qu'avant.
OK, c'est bon.
Selon la demande aussi.
Oui. À un moment donné, ça fait boule de neige.
Peut-être, oui.
Alors, on va redémarrer doucement. Je sais que vous avez sûrement beaucoup de choses à vouloir échanger sur ce beau exposé. On a malheureusement que quelques minutes, une quinzaine de minutes pour la période de questions. Alors, s'il y a déjà des gens qui peuvent débuter avec des questions aux présentateurs, on va commencer.
Oui, oui, j'ai une question pour Anne. Anne, est-ce que tu peux nous partager quelle est ta politique ou conduite ou posture vis-à-vis du secret ? Puisque avec donc Jean-François, vous avez ce protocole de recevoir en individuel et puis ensuite en couple. Merci.
Oui. Ben, c'est. J'ai l'impression que pour moi, c'est pas tellement une posture arrêtée. Hein, c'est plutôt en réflexion. J'entendais ce qu'en disait Michel et. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt pour dire aux couples, hein, dans le cadre, ne nous dites pas de secrets. On ne peut pas les tenir. On ne peut pas être complice hein, d'un secret de l'un et de l'autre. Dites-nous seulement si vous êtes dans l'intention de le dévoiler. Hein. Pas forcément tout de suite. Hein. Ça peut être intéressant de tenir un temps. Hein, le secret pour préparer à le rendre, à le remettre dans le contact, quoi, hein, à le rendre visible, explicite. Voilà, donc moi je suis plutôt avec ça aujourd'hui. Hein, c'est comme ça qu'on travaille avec Jean-François, t'es d'accord ? Ouais. Alors ceci dit, des fois, ça. Alors il nous est arrivé avec Jean-François que ça émerge. le secret avant qu'on ait eu le temps de poser le cadre. Et ouais, ouais, parce que... Et moi, je me souviens d'un monsieur qui est arrivé. Il était tellement affecté par le fait qu'il ait une autre compagne, qu'il est arrivé en pleurs en me disant je trompe ma femme. Voilà. Et on n'avait pas eu le temps de poser, justement. Alors là, c'était un peu périlleux, quoi. Mais ça a pu tranquillement se dire et se réguler en séance à quatre, ensuite. Voilà. Donc il y a eu tout un travail de préparation, justement, avec ce client-là, pour ensuite l'amener dans le champ du couple. Voilà. Non, je ne sais pas si, Michel, toi, tu peux donner ton point de vue là-dessus.
Je dirais à peu près la même chose. Par exemple, dans une séance individuelle, si quelqu'un me révèle un secret, je vais discuter avec cette personne-là, puis peut-être que c'est une bonne idée de ne pas le dire en séance conjointe. Parfois, des gens portent une espèce de culpabilité, une relation antérieure, ou même peut-être une indiscrétion, une infidélité, mais loin dans le passé, un couple qui est ensemble depuis 25 ans, ça n'a pas beaucoup d'impact sur ce qui se passe maintenant dans leur vie de couple. Alors, si c'est un secret qu'ils sont capables, avec lequel ils sont capables de vivre, je suis capable de respecter ça. Mais si, par contre, je pense que ça pourrait affecter leur objectif, là, on va discuter, voir comment je pourrais apporter un certain soutien, comment on pourrait dévoiler ça dans une session conjointe, ça serait quoi les craintes de la réaction du conjoint, est-ce qu'il pourrait avoir un danger de violence physique, si oui, bon, ben là, il faut mettre des balises en place, il faut penser à tout ça. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut y aller un petit peu intuitivement aussi. Parce qu'on peut pas donner une règle pour tout le monde. Il faut vraiment s'ajuster aux différentes problématiques.
C'est-à-dire, ce qu'on peut regarder, c'est est-ce que c'est au service d'une construction de couple ou de destruction de couple, quoi. Est-ce que c'est au service de la reproduction ou pas, ça, c'est...
Ça demande aussi pour le thérapeute une capacité de tolérer cette charge-là. Alors, il faut être prêt à faire ça. C'est du sport, faire de la thérapie de couple.
Bonjour. J'ai une question sur la durée de la thérapie de couple. J'ai fait une formation qui disait que le meilleur thérapeute du couple, c'était le couple, et que un travail avec un couple devait durer 10-12 séances. Ah. Je suis un petit peu tombé de ma chaise, même si c'est un peu compliqué. Parce que tu as dit que tu voyais un couple depuis 4 ans.
Oui.
Donc, j'aimerais... Il y a dit 4 ans, il y a dit 2 ans.
Alors, un 4 ans et l'autre 2 ans.
Donc, j'aimerais simplement avoir ton avis sur la durée d'une thérapie de couple. Anne, tu t'es pas prononcée sur la durée de tes thérapies de couple.
Moi, j'en suis à 6 ans avec eux.
6 ans?
J'en suis à 6 ans avec eux. Valérie, 10 ans de thérapie individuelle. Et aujourd'hui, le dispositif, c'est qu'ils ont chacun leur thérapeute en individuel, PGRO. Et je vous assure qu'il faut bien ça. Ouais.
Je pense que ça dépend du niveau de pathologie chez chacun dans le couple. Alors, c'est sûr que quand on a un couple composé de personnes qui ont des troubles de personnalité assez bien ancrés, on ne peut pas s'attendre à faire ça dans 10 ou 12 sessions. C'est intéressant la question parce que chez nous, moi je travaille beaucoup pour les forces armées, un peu comme François, on nous donne des balises. On nous dit, pour un problème comme de dépression, 10 sessions. Mais pour un problème de couple, on le sait que ça va prendre 20 sessions. Mais je sais d'où ça vient. Ça vient, par exemple, pour la dépression et l'anxiété, ça vient des modèles de TCC. Pour la thérapie de couple, ça vient du modèle de EFT, Emotionally Focused Therapy, la thérapie axée sur les émotions. Et ma directrice de thèse, qui s'appelle Sue Johnson, c'est celle qui a développé cette approche-là. Elle a beaucoup, beaucoup validé ça de façon empirique. Et en moyenne, c'est 20 sessions où elle peut réussir à amener un couple du début à la fin. Elle a à peu près une douzaine d'étapes qu'elle décrit. Pas tout à fait 12. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Si c'est un couple qui n'a pas de problème de troubles de personnalité, par exemple, Oui, des fois, 15, 20 sessions, c'est assez. Là. C'est juste pour dénouer une impasse, ça va. Mais les couples que je vous ai présentés, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là. Ça fait, on prend le temps. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui.
Bonjour, merci pour vos deux propos. Le mien, il va s'adresser peut-être à Michel, mais peut-être à la salle entière. C'est que j'ai un malaise, une remarque et une question. Mon malaise, c'est lié aux violences. À un moment donné, quand ça a été parlé des violences dans le couple. Et je me dis, tiens, il y a un écueil que je vois souvent quand j'entends parler de thérapie, de psychologie et de psychothérapie. Moi, je suis en second cycle, voilà, changé. Je vois l'apport des neurosciences, je vois l'apport souvent de la psychanalyse, de plein de philosophies, mais je me pose la question de la sociologie et du politique. Et je me dis, tiens, il y a quand même des faits qui sont là, par exemple, plus de 260 femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Le viol conjugal ou par l'ex-petit conjoint, c'est aussi une donnée qui est énorme. Donc je ne parle pas des violences psychologiques, etc. Et du coup, je me demandais, tiens, comment ça vous le prenez en compte? Et puis après, il y a eu donc cette histoire entre Charles qui intimide Nathalie et que vous lui faites prendre conscience, sa tentative de sécuriser ton lien amoureux, ça ne marche pas, elle se retire, c'est parce qu'elle a peur. Bah oui, encore heureux qu'elle a peur. Et je me dis, tiens, parce qu'il n'est pas que Charles, il est aussi un homme. Donc, sociologiquement, il fait partie d'un groupe dominant. Il y a quand même des apports de sociologie, que ce soit du côté de Christine Delphi, de plein d'autres, de Bourdieu avec la domination masculine, etc. Et je me dis, tiens, c'est quoi la posture du thérapeute là-dedans? Et du coup, mes questions qui sont ensemble, c'est cette inégalité sociologique homme-femme et les risques pour une femme victime de violence, est-ce que vous la prenez en compte?
Oui.
Deuxième. J'ai mes trois questions. Si oui, donc comment? Et trois, quid de, ouvrez les guillemets, l'assistante à personne en danger, comment vous favorisez une protection de cette personne? Merci. Okay.
Quand il y a une violence active dans le couple, je refuse de les rencontrer en couple tant et aussi longtemps que cette violence, que par exemple un homme, puis vous avez tout à fait raison, ça va être surtout l'homme qui risque d'être violent, bien que j'ai des couples où c'est la femme qui bat l'homme. Hein, et on n'en parle pas beaucoup de ça, et l'homme a beaucoup honte de ça. Mais enfin, alors par exemple, prenons l'exemple d'un homme qui est violent. Je vais refuser de voir le couple et demander à ce que l'homme aille chercher un traitement spécialisé pour la gestion de la colère, par exemple. Une fois qu'il aura avancé là-dedans, on peut reprendre les rencontres de couple. Parce que la thérapie de couple, c'est la vulnérabilité. Alors, si madame ouvre sur sa vulnérabilité et monsieur répond avec de la violence physique, on vient de bousiller tout ce qu'on essaie de faire en thérapie de couple. Ouais, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire ou dire d'autre. As-tu des choses là-dessus?
C'est vrai que moi, j'interroge, hein, parce que quand j'entends parler de violence, je pense que c'est important de rentrer dans l'explicite. Donc, s'il y a des coups, par exemple, c'est vraiment important là, de dire stop, de ramener à la loi. Hein. Mm-hmm. Mais d'attirer aussi la responsabilité des deux conjoints. Hein. Je pense que c'est important. Hein. C'est quand même quelque chose qui se passe entre eux et ils sont malgré tout co-responsables.
Hein. Oui, puis une des choses que j'ai fait, d'ailleurs, je décris ce couple-là dans le chapitre. À un moment donné, il y a eu une altercation où lui a cassé le poignet. Alors, j'ai dit, écoutez, on peut en parler ici. Mais il faudrait réserver tout sujet qui serait susceptible de déclencher cette violence. Vous allez réserver ça pour mon bureau. Vous n'en parlez pas en dehors d'ici. Et ils ont accepté ce contrat-là et ils ont fait un cheminement extraordinaire, à mon avis, et sur un an à peu près. Et ils s'en sont sortis merveilleusement. Parce qu'ils ont accepté ce contrat-là. Donc, il faut contenir ça. Alors, je n'aime pas les gens qui... Il y a des thérapeutes qui ont le réflexe, il y a de la violence, on coupe ça ici, on se rapporte à la police ou des choses comme ça. Parfois, peut-être qu'il faut faire ça. Heureusement, je n'ai pas eu à faire ça. Mais il faut aussi pouvoir traiter ce qui amène la violence. Et comment allons-nous faire ça si à chaque fois on dit on va couper la thérapie? Alors, de le contenir, de dire, écoutez, ce qui pourrait déclencher la violence, on en parle qu'ici, et si c'est respecté, on continue. Si ça ne l'est pas, on a un problème de cadre, il va falloir qu'on voit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parfois aussi, je vais les voir individuellement pour un certain temps. Parce que s'il y a beaucoup de... Même dans le bureau, je n'ai pas vu de violence physique, mais il y a beaucoup de violence verbale parfois qui est déclenchée. Il y a des escalades, puis on ne fait qu'éteindre des feux. J'ai l'impression de jouer aux pompiers. Alors là, il y a un couple en ce moment. En fait, c'est Julie et David. En ce moment, je suis en train de les voir séparément. C'est de la thérapie de couple, mais individuelle. Et ça, en tout cas, je pense que c'est en train de dénouer, là. Excusez, je parle trop.
Non, j'écoute, c'est intéressant. Oui. Mais ça dépend des limites aussi du thérapeute. Hein. Moi, ça m'arrive aussi de dire, mais là, je peux pas, quoi. On peut pas travailler, quoi. Il y a trop de violence. Je peux sentir mes limites à cet endroit-là. Hein. Et là, ça peut être intéressant de plutôt travailler à deux, par exemple. Hein. C'est l'avantage.
Oui, j'ai une question, je reviens un peu en arrière. Je suis un peu interrogatif sur le fait de prendre une thérapie individuelle et après à trois, surtout quand vous parlez de secret. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez être dépositaire du secret et qu'un des couples ne le sait pas et se retrouve avec deux personnes qui savent quelque chose qu'elle ne sait pas. Et ça, je trouve que c'est pour moi inacceptable qui travaille toujours en thérapie à trois.
Mm-hmm. Non, c'est une position qui se respecte. Hein. En fait, ce sont les approches systémiques qui vont travailler de cette façon-là. Et ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que moi, personnellement, dans la façon que je travaille, je veux savoir s'il y a des secrets. Parce que pour moi, ça risque de bousiller le processus thérapeutique. Je veux savoir si j'ai un couple qui arrive, ils ont deux agendas différents. Elle veut rebâtir la relation et lui, il cherche une façon de s'en sortir uniquement. Il a déjà sorti, il est déjà avec une autre. Moi, j'aime ça le savoir. Puis à ce moment-là, souvent, je mets un stop à la thérapie parce que ce n'est pas compatible. On ne peut pas faire de thérapie de couple si un travaille à sortir. Il est déjà sorti effectivement, alors que l'autre a des fausses prémices et pense qu'on va reconstruire le couple. Alors, ça m'est déjà arrivé de stopper après les séances individuelles. Je regrette, mais je ne peux pas travailler avec vous. Il y a une incompatibilité au niveau des objectifs.
Oui. Il y a Gilles qui va clore.
Je ne sais pas si c'est encore utile, mais eu égard à la question de la sécurité ou des risques pour l'un ou l'autre...
Tu peux mettre le micro plus proche? Oui, mais plus proche.
Oui, c'est bon? Oui? Toi, tu m'entends très bien. C'est ça, je ne sais pas si c'est encore utile. Je reviens sur la question des risques pour la sécurité et l'intégrité physique d'un des deux membres du couple. Peut-être pour rappeler, Michel, puis les Québécois, vous êtes bien au courant de ça, la déontologie professionnelle en Amérique a un cadre de référence peut-être différent du vôtre. Mais nous vivons à l'heure de, je crois, le principe, c'est Roe versus Wade, une cause célèbre. Et le professionnel de la santé mentale se trouve souvent confronté à devoir prendre une décision en fonction de son jugement professionnel immédiat, à savoir, est-ce que j'estime que cette personne pose un danger immédiat pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, auquel cas je suis tenu par la loi d'agir. Voilà. Cependant, si je me trompe et que je fais un signalement, il est possible que je sois par la suite poursuivi par ces personnes-là pour bris de confidentialité. Alors, ces situations-là sont toujours des situations d'extrême tension où le professionnel doit exercer son jugement et bien le documenter dans sa tenue de dossier, les attendus que, les signes cliniques, les gestes qu'il a posés, pourquoi il les a posés. C'est souvent des questions extrêmement explosives, sujettes à poursuite.
Très juste. Bien. Merci, Gilles.
Merci à vous deux.